les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu. La France est debout, votre passion toujours nous rassemble. Allez les bleus, on est tous avec vous.
Bonjour à tous, bienvenue sur Only a John Podcast numéro 103. Les Giants sont à 5 victoires, 8 défaites, qui l'eût cru, 3 victoires d'affilée pour Tommy Cutlets, Tommy DeVito, le QB rookie sorti de nulle part. J'ai comme d'habitude avec moi Thiergo. Comment vas-tu Thiergo? T'as pu regarder tout le match, comment tu te sens?
Ah bah écoute, je suis au Nirvana. C'est pas la victoire la plus belle des Giants, etc. Mais c'est un énorme cadeau que les Giants ont pu me faire aujourd'hui. Je note d'ailleurs, je te mets un peu on the spot, mais tu ne m'as pas souhaité un joyeux anniversaire, cher Plax.
Non, bah bon anniversaire, je ne savais pas que c'était ton anniversaire.
Ça fait 3 ans qu'on se connaît et moi je connais
ton anniversaire. Je sais pas, je connais pas l'anniversaire de ma mère, si tu veux, donc je vais pas te...
Ah ouais, alors putain, pauvre de ta maman. Enfin bref, ouais. tout ça pour dire que j'étais déjà très gâté par mes proches, mais pouvoir me poser... aujourd'hui, parce que je travaillais pas, devant la télé et regarder les Giants remporter ce match contre les Packers, complètement inattendu, encore plus inattendu que l'année dernière, c'était un plaisir incroyable.
Et pour le coup, le match de l'année dernière était plus compliqué parce qu'on a été mené tout du long, alors que là c'était plutôt l'inverse, mais tu vas nous en parler. Avant qu'on parle de ce match et des performances de nos Giants, petit rappel sur le Patreon, vous pouvez nous supporter sur patreon.com/onlygiantpodcast. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas cité, c'est bien ça l'adresse?
Ouais, c'est ça, patreon.com/onlygiantpodcast. Et il y a différents niveaux.
Voilà, différents niveaux de participation et vous pouvez soutenir votre podcast préféré, évidemment, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à liker, mettre des pouces. Alors j'ai vu qu'on avait des ratings aussi sur les différentes plateformes où vous écoutez le podcast, donc n'hésitez pas là aussi à mettre des commentaires ou mettre des étoiles ou des likes ou des pouces, je sais pas ce qu'il y a, mais cliquez en tout cas. Ça fait toujours plaisir, ça nous soutient et pareil, vous pouvez vous abonner également au YouTube.
Et attends, j'en profite, je te coupe juste deux petites secondes parce que on l'a peut-être pas cité lors du dernier podcast, ceci dit peut-être pas sorti, mais tu sais, on a eu le Spotify Wrapped du podcast avec des statistiques absolument incroyables en termes de croissance d'auditeurs, etc. Enfin, on n'a pas les yeux rivés sur les podcasts, mais je voulais juste quand même remercier encore une fois tous nos auditeurs qui sont extrêmement fidèles malgré les résultats peu glorieux des Giants en début de saison. Nous, ça nous fait énormément de plaisir et ça nous booste à fond pour continuer à délivrer du contenu, que ce soit en podcast, sur Twitter et aussi sur le blog onlyagiantblog.com pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc voilà, je te repasse la parole, cher Plax.
Non, mais très bonne précision. Merci beaucoup à vous, les studios. Alors, les Giants qui étaient à 2-8, tu l'as dit, oui, c'était beaucoup de podcasts difficiles avec beaucoup de défaites et c'était un peu complexe. On était à 2-8, on est maintenant à 5-8 et donc c'est la troisième victoire de rang de Tommy DeVito qui en est à son quatrième match titulaire. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais les Eagles ont perdu aussi. Ça ne rend que plus belle la victoire. Les Eagles qui se sont fait éclater par les Cowboys. Bon, c'est les Cowboys, donc j'aurais préféré qu'ils se fassent battre par quelqu'un d'autre, mais c'est toujours ça de prix. Juste, voilà, on rencontre ces Packers, donc, qui étaient en pleine forme, ils venaient de battre les Lions et les Chiefs, donc c'était quand même pas évident, ils étaient sur une bonne lancée, leur quarterback avait, je crois, sur les 3 derniers matchs, il était à genre 8 TD et 0 interception, enfin, il était vraiment en forme, et on a, ce que je disais juste avant le podcast, on a plus ou moins fait la pluie et le beau temps sur ce match, contrairement à ce qu'on a pu voir à Londres l'année dernière, où on a vraiment été dominé, et il a fallu qu'on en deuxième mi-temps, on fasse un vrai travail pour remonter alors qu'on était vraiment mené assez violemment. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ce match, la physionomie globale, sans entrer dans tous les détails, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu tout un tas de petits faits de jeu qui ont rendu ce match encore plus palpitant, mais globalement, est-ce que tu peux nous résumer comment ça s'est passé?
Oui, tout à fait, et juste pour ajouter un truc par rapport à la comparaison de l'année dernière, personne ne croyait aux Giants, et les Giants étaient très confiants en leur équipe qui avait remporté plusieurs victoires et on a battu les Packers alors qu'on a été mené pendant toute la rencontre. Là, cette année, personne ne croyait aux Giants, mais à raison, parce qu'on n'a vraiment pas été bon cette année. Et ouais. En effet, comme tu l'as dit, on s'est retrouvé devant quand même assez rapidement. Alors, il y a eu pas mal d'erreurs du côté des Packers, des passes mal ajustées de Jordan Love, des turnovers qui ont bien profité aux Giants, parce qu'à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais la plupart du temps, on l'a quand même marqué, hein, que ce soit un muff punt, que ce soit des fumbles, que ce soit des interceptions, notre défense et nos special teams étaient là. Alors, nous aussi, on a eu hein, quelques petites erreurs, mais au final, on a été plus propre que les Packers. Et c'était justement la clé de cette rencontre, c'est que quand tu regardes les stats de Vito, et on rentrera en détail plus tard pendant le podcast, il n'a loupé que 4 passes. Il n'a loupé que 4 passes et il ne s'est jamais fait saquer. Mais ça pour dire
donc,
que...
dont 2 ou 3 en premier quart-temps. Donc en fait, il est quasi parfait à partir du deuxième quart-temps. C'est assez...
Exactement. Donc, on a eu un premier quart-temps qui était extrêmement lent, puisque je crois qu'à la fin du premier quart-temps, on ne fait que 29 yards en attaque, ce qui est peu. Et premier drive du deuxième quart-temps, 75 ou 76 yards TD. En fait, à chaque fois qu'on a eu des... drive un peu long, je crois qu'il y a un drive de 26 yards où il n'y a pas de TD, mais sur tous les autres où en gros on a enchaîné les first down, et ben là on allait à l'embut. Bref, on revient à la mi-temps mené de 3 points par les Packers, hein, 17, les Giants s'envolent avec un magnifique TD de DeVito sur Isaiah Hodgins, hein, le premier TD avait été...
Très beau, très voilà. Beau. Ouais.
Et en fait, le TD d'Isaiah Hodgins, c'est qu'on voit DeVito qui court vers la droite et qui envoie une passe ultra précise sur Hodgins dans le coin droit de l'end zone, alors qu'il était quand même sacrément bien couvert. Donc, on s'est retrouvé un moment à 21-10 devant les Packers. Ils sont remontés petit à petit avec des field goals. Et on a eu une énorme erreur de Saquon Barkley qui, après une grosse course, enchaîne une deuxième course. Et sur cette course, en fait, il trébuche tout seul et perd le ballon. Fumble récupéré par les Packers qui en ont profité pour marquer un TD qui se retrouve donc à 22-21 derrière nous. Ils nous rendent le ballon avec 1 minute 30, 1 minute 33 restant en chrono. Et là, on a remonté tout le terrain. Un Wandell Robinson des grands jours qui, on vous en parlera, en fait, nous a fait une rencontre pas possible qui nous a fait remonter le terrain. Et ça s'est terminé par un field goal de la victoire de Bullock à 3 secondes de la fin. Enfin, avec un chrono à zéro, quoi. Donc,
Généralement, ils le tapent quand il reste 2, 3, 4 secondes, puisqu'ils savent que c'est le temps que le jeu se déclenche, et donc tu arrives à zéro à la fin.
Ouais.
Donc, c'était une bonne gestion du chronomètre. Franchement, quand t'arrives à ce moment-là, il y a quand même, enfin, t'y crois pas trop qu'on arrive à remonter le terrain aussi vite sur les deux dernières années, enfin, même les dernières années en général. C'est vrai que sur des drives comme ça, on est sous pression en fin de deuxième quart-temps et en fin de quatrième quart-temps. On a rarement été bon, et là on a fait ce qu'il fallait pour marquer et mettre ces 3 points qui nous permettent de passer devant. Sachant que ce que tu n'as pas précisé, on l'a dit, il y a trop de faits de jeu pour tout préciser dans un petit résumé, mais une des actions ultra décisives, moi je pense, de ce match, c'est après le dernier TD, donc qui leur permet de passer à 22-21. Ils tentent une conversion à 2 points, donc ce qui est logique, puisque 22-21, s'ils mettent un kick, ça ferait 23-21, ce qui n'a aucun intérêt d'avoir 2 points de plus. Il vaut mieux avoir 3 points de plus, comme ça, si jamais il y a un field goal qui passe, eh bien, tu reviens à égalité. Il serait à 24-24, mais en fait, ils ratent cette conversion à 2 points par un plaquage absolument incroyable d'Okereke, où tu vois, si tu revois le replay, le running back, il arrive lancé pleine vitesse, et Okereke, c'est un rock, quoi. Il bouge pas, il le plaque et il rate leur conversion là-dessus. C'est très impressionnant. Ouais. Est-ce qu'on peut commencer par parler de l'attaque pour le coup? Parce que je trouve qu'ils ont fait quand même un bon match, même si, il y a eu quelques punts, tout n'a pas été parfait. Mais globalement, il y a quand même eu un bon match. Et on a souvent parlé de la défense en premier, parce que c'est vrai que c'était eux qui nous maintenaient dans les matchs les dernières semaines. Et là, je trouve que l'attaque a fait un bon boulot, tu l'as dit. Donc, Tommy DeVito, il finit à 17 sur 21. 158 yards, 1 TD, 0 interception. Il fait encore un rating de plus de 110 sur ce match. Et surtout, une des grosses diffs par rapport à avant, 0 sac. Ça, c'est qui l'eût cru, on s'est fait saquer 0 fois.
Ouais, et d'ailleurs, je l'ai posté sur Twitter, le discours de fin de match de Brian Daboll à l'équipe, où il donne la balle du match. Vous savez, généralement, on donne toujours la balle du match à un joueur ou un coach qui s'est particulièrement distingué pendant la rencontre. Et là, cette fois, il donne la balle du match à la ligne offensive. Et je pense que on devrait parler de la ligne offensive en premier, parce que c'est pas pour rien que DeVito ne se retrouve pas saqué. On a quand même aussi pas mal accumulé de yards à la course. Et j'ai trouvé que globalement, il avait une poche qui était propre. Et que quand la pression venait, il y avait toujours une échappatoire pour DeVito qui a accumulé, je crois, pratiquement 80 yards à la course. Donc
71 exactement. Ouais.
Ah, bon, tu vois, je pensais que c'était plus que 75.
Dont certains design runs qui étaient avec des feintes de remise et où il gardait la balle, ce que faisait beaucoup Daniel Jones, et lui il l'a fait, et il est plutôt rapide hein, le gaillard.
Ouais, il a des jambes, il a des jambes. Alors c'est, il n'est pas aussi élancé qu'un Daniel Jones, mais il est très mobile et il sait se servir de ses jambes quand il veut. D'ailleurs, c'est, ça me fait penser juste à un truc avant qu'on revienne sur la ligne offensive, c'est que De Vito à un moment s'est fait plaquer alors qu'il glissait les jambes en avant. Et c'était clairement une action où il y aurait dû avoir un flag, même si le consultant arbitrage disait non, c'était incidentel. Enfin, en fait, à chaque fois qu'il y a des actions où au jaugé, on se dit, en fait, à vitesse réelle, on se dit où il pourrait y avoir un flag, les arbitres ont tendance à flaguer. Et là, comme par hasard, ils flaguent pas. Bon, bref, Brian Daboll était scandalisé. Un peu plus tard, De Vito fait une course et il y a un défenseur, je sais plus si c'était un linebacker ou un DB. Mais De Vito lui met un énorme coup d'épaule. Le défenseur s'est retrouvé sur la touche, le souffle coupé quand même pendant 2-3 plays. C'est, tu dis, ah ouais, quand même, bon gaillard, quoi. Donc, ça fait plaisir à voir. Mais pour ce qui est la ligne offensive, avant que je te repasse la parole, ce que je voulais dire, c'est que, comme d'habitude, on a eu un Andrew Thomas qui était très très bon. Mais je voulais aussi signaler John Michael Schmitz, qui fait beaucoup de beaux blocs, parfois même des doubles blocs sur des actions et qui ont ouvert des grosses brèches pour Daniel Jones, pour Saquon Barkley. On a vraiment un super centre drafté cette année.
Ouais, il montre une action, je pense que c'est celle-là dont tu parles, où il met un premier bloc en double team sur un D-line, et ensuite il monte au second rideau sur le linebacker, et il ouvre un gros trou derrière pour Saquon Barkley. C'est peut-être l'action où il fait le fumble, d'ailleurs, je ne me souviens plus, mais bref, c'est, voilà, il y a
c'est
eu des bonnes choses.
C'est juste avant le fumble, en effet.
Alors malheureusement, il y a quelques actions où on est en 3e et short, 4e et short, où là, c'est pas passé. Il y a eu au moins 2 actions comme ça, dont un qui a provoqué un turnover on down. Où quand c'est un peu trop téléphoné, on a un peu plus de mal. Quoique en fin de match, ils se doutent en face que quand on mène, ils n'ont pas encore mis leur TD, les Packers, et donc ils se doutent qu'on va faire de la course pour essayer de faire écouler le chrono. Et là, c'est là où on gagne, on fait 2 gros gains coup sur coup, et où Saquon Barkley finit par faire un fumble. Mais c'était des belles courses qui sont bienvenues pile au bon moment. En fait, c'est exactement dans ces moments-là où tu as besoin d'avoir un jeu de course, parce que ça te permet d'avancer tranquillement, pas trop vite, mais de gagner du terrain et de permettre au chrono de s'écouler. Donc c'est vrai que cette O-line avec 0 sac encaissé, alors il y a un ou deux moments où ça a été chaud, mais comme tu l'as dit, il a toujours trouvé moyen de s'échapper. J'ai l'impression qu'il gagne un peu en vision, en awareness, Tommy DeVito, et c'est pas plus mal. La O-line aussi, le fait que enfin ils aient un peu stabilisé les joueurs de cette O-line et qu'on change pas 3 joueurs sur 5 toutes les semaines, forcément ça aide un peu. Et là, c'est vrai qu'il y a un peu moins de blessures ces derniers temps, et on voit bien que la O-line est en train de montrer un nouveau visage, et sans être parfaite, elle permet quand même de développer un peu plus de jeu, et c'est ce qu'on a pu voir sur ce match. Alors après, De Vito, il fait 158 yards, c'est pas le match de l'année, mais il a été suffisamment propre. 17 sur 21, c'est quand même très très propre.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que 158 yards, ils l'ont limité, c'est-à-dire que Kafka et compagnie lui ont donné des passes assez simples. On a vu que ils se sont beaucoup reposés sur la course, puisque Saquon Barkley fait 20 courses quand même. Il y a 2 courses pour Wandale Robinson, dont une énorme course de 32 yards. Donc De Vito, c'était pas censé être la principale arme offensive des Giants sur ce match-là. Et comme tu l'as dit, il y a du progrès. On le voit de rencontre en rencontre, qui gagne en confiance. Il y a en début de match, en fait, je trouve qu'il a... Il met un peu de temps à se mettre dans le rythme, parce qu'en début de match, il y avait peut-être une ou deux passes qui étaient un peu mal calibrées. Ouais. Et d'ailleurs, le flicker qui fait un peu plus tard, la passe est clairement sous-dosée, et Wandale Robinson ajuste et permet de faire la réception. Donc, tout n'est pas parfait chez De Vito, mais c'est suffisant aujourd'hui.
Ouais, le flea flicker, juste, bah, je voulais en parler parce que je voulais parler justement de Wandale Robinson. Le flea flicker, c'est une action où le quarterback donne la balle au running back, le running back fait 1 ou 2 yards, se retourne, redonne la balle au QB, le QB l'envoie. Alors en général, ce qui se passe, c'est que les défenseurs se font feinter et vont se jeter sur le jeu de course, et ce qui fait qu'ils laissent le receveur dans leur dos. Là, ça n'a pas été le cas, ils ne sont pas du tout fait feinter. Donc au final, De Vito lance une passe sur Wandale Robinson, mais il y a quand même deux défenseurs sur lui. Robinson, il fait une super réception par-dessus le corner, enfin, c'est magnifique. Et au total, Robinson, il fait quand même donc, deux courses, 36 yards, et il fait 6 réceptions, 79 yards, 6 réceptions sur cette passe lancée dans sa direction. Ça lui fait plus 120 yards à peu près sur ce match-là. À chaque fois qu'il est impliqué dans le jeu, je le trouve vraiment, il arrive à trouver des brèches, à trouver des manières de se faufiler et faire beaucoup de yards after catch, Robinson, et je le trouve vraiment, vraiment très intéressant. Il avait commencé à l'être l'année dernière, et j'aime bien la manière dont il l'implique dans le jeu, et il montre que c'était bien, enfin, il tient son statut de deuxième tour, puisqu'il a été sélectionné au second round l'année dernière, donc c'est une belle satisfaction et j'aime bien le voir jouer, et malgré sa petite taille, c'est très cool qu'il soit dans cet effectif là donc je pense qu'il va être dans les plans pour les années à venir. On a quand même quelques, voilà, on a entre lui et comment il s'appelle, Jaylen Hyatt, c'est deux profils très différents mais deux jeunes joueurs sur lesquels on va pouvoir se reposer, donc ça c'est
ouais. Et d'ailleurs Robinson a tweeté aujourd'hui et dire qu'il y a un an j'étais dans l'avion pour aller me faire opérer à Los Angeles. En effet, il a parcouru énormément de chemin depuis sa blessure au genou. Il est monté en puissance. Tu vois, en fait, je pense que Dabble a raison d'avoir donné le ballon du match à la ligne offensive parce qu'on les a pas suffisamment mis en avant et sans leur prestation, on n'aurait pas pu avoir ce résultat. Mais si on devait mettre sur un joueur le titre de MVP sur cette rencontre, pour moi, c'est Wandale Robinson. Il marque pas de TD, mais énormément de drives. On pu avancer grâce à des big plays de Wandale Robinson. Hein. Y a ce end-around qui de 32 yards. Il y a aussi en fin de match où il a encore une fois une grosse réception. Pardon. Au total, tu l'as dit, hein, il est à plus de 150 yards en scrimmage. Tu vois, le match d'avant, c'était Jaylen Hyatt qui avait fait beaucoup parler de lui. Là, il était clairement beaucoup plus gardé par la défense adverse. Cette fois, c'est Wandale Robinson. Ça montre qu'on a quand même une diversité dans cette escouade de receveurs qui est ultra importante pour le succès de cette équipe.
Ouais, alors c'est plutôt 120 yards que 150, mais ouais, dans ces eaux-là.
Je fais du droit, pas des maths.
Ouais. Il est à quand même 450 yards sur ce match, Wandale Robinson, c'est assez énorme. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Tommy DeVito? Il faudrait réécouter ce que tu avais dit sur lui, donc les premiers matchs, c'est normal. C'est pas, voilà, c'est pas le QB d'avenir, c'est peut-être même pas un remplaçant, machin, on n'en sait rien. Est-ce que on serait pas en train de. Je dis pas que ça va être notre QB titulaire, je parle pas de ça, mais est-ce que. On le verrait pas déjà comme un QB remplaçant pour les années à venir en se disant, tu sais, on se posait la question, est-ce qu'on fait jouer Tyrod Taylor, est-ce qu'on le fait jouer lui? Donc, ils ont confirmé les coachs que c'était lui qui devait jouer et je pense qu'ils ont ce match leur a donné raison. J'arrive pas pour l'instant à savoir si c'est une espèce d'euphorie sur quelques matchs et puis ça va vite retomber. Ou est-ce qu'on est vraiment sur un joueur qui, sur du long terme, peut être pertinent? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu te souviens, je m'étais en prenant mes quelques notes là vite fait avant le podcast, est-ce que tu te souviens de Jeremy Lin chez les Knicks ou est-ce que tu ne suis pas du tout le basket?
Alors, Jeremy Lin, ça me parle, mais je ne suis pas du tout la NBA. Donc, mais je comprends l'analogie hein, avec ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est un gars qui était sur le banc, on ne l'attendait pas du tout, il est arrivé sur le terrain, il a tout pété.
C'est exactement ça, et ils avaient fait carrément un truc, c'était le l'Insanity, il y avait eu des t-shirts, et effectivement, il avait été bon sur plusieurs matchs, etc., avant de redevenir un joueur moyen de NBA. Bon, il a quand même eu une carrière, hein. Il a quand même été dans plusieurs équipes, etc., donc j'ai pas suivi sa carrière à 100%, mais il a été incroyable pendant quelques matchs, je crois que sur le match où il rentre, ils font un comeback, enfin, je me souviens plus exactement l'histoire, mais c'était, voilà, il y a eu vraiment une atmosphère autour de lui, comme il y a en ce moment, autour de Vito. De Vito, il y a des vidéos de lui où il fait des autographes, il y a une queue de ouf de joueurs qui l'attendent, il y a ce petit geste à l'italienne où il parle que de ça, il y a des photos de Joe Shane qui fait ça dans le vestiaire avec tous les autres joueurs, enfin bref, il y a vraiment un truc autour de lui en ce moment. Est-ce qu'on va finir par perdre la semaine prochaine contre les Saints, à se faire éclater, et plus prendre deux défaites, deux roustes contre les Eagles, et puis on n'en parle plus dans trois semaines? Ou est-ce qu'on est sur quelque chose sur du plus long terme? Moi, je te dis tout de suite, je suis incapable de dire à l'heure actuelle. Ce que je trouve, par contre, c'est que sur ces quatre matchs qu'il a joués et ses trois dernières victoires, il fait preuve d'une maturité assez incroyable. Et bon, voilà, c'est... on aurait envie de s'enflammer, mais j'ai quand même du mal à y croire. Qu'est-ce que toi, tu as comme avis sur lui là ? C'est dur, je trouve, de se faire un avis.
Alors, il y a tellement de choses différentes à dire à cette question. La première chose, juste pour évacuer, et je crois que je ne suis pas le seul à penser ça, puisque j'ai eu pas mal de commentaires dans ce sens-là sur Twitter, notamment dans la communauté française, c'est on en fait beaucoup trop sur la De Vito Mania.
Oui, c'est sûr.
Et tu sens que c'est forcé, le coup de à l'italienne, les mains, le truc de la main et tout. En fait, ouais, c'était rigolo, mais bon, tu sens que les community managers des Giants, ils avaient pas grand chose à dire en début de saison. Et là, ils ont un truc, et là, ils se donnent à fond et ils mettent De Vito.
Ah, mais je crois que ça.
Voilà.
Et je crois que c'est un vrai truc dans l'équipe quand même. Hein. C'est, tu parles de community manager, mais dans l'équipe, personne ne leur oblige à le faire. Et
ah non. Non. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'en effet, que l'équipe s'enthousiasme pour ce rookie undrafted qui a des origines italiennes et joue avec ça très bien. Mais tu vois, par exemple, cette semaine, il y a eu une vidéo très gênante de De Vito qui est installé à une table et qui est en train de parler de bouffe italienne avec un gars d'Instagram que je ne connais ni.
Inutile.
Ouais. Et là, t'as envie de dire. Mais foutez-lui la paix, juste, ok, c'est cool, mais foutez-lui la paix. Et puis, surtout, les images toutes les deux secondes de la famille de Vito avec son agent que personne ne connaissait et qui allait s'acheter un chapeau qui se la joue Rital et tout, alors que on sait même pas s'il a des origines italiennes. Enfin, tu sens qu'il y a quand même tout un truc autour de Vito qui est très forcé et qui va vite être oublié à partir du moment où il va perdre. Parce qu'il ne faut pas s'en douter une seule seconde, c'est qu'au bout d'un moment, on va tomber sur plus fort que nous. Si ce n'est pas les Saints, ce sera les Eagles. Donc,
les Saints, sont, pour le coup, ne sont pas incroyables, et il y a peut-être moyen d'encore faire quelque chose la semaine prochaine. Ce serait assez fou, d'ailleurs, mais bon.
Mais tu vois, en fait, sur le plan tout à fait personnel, je suis super content pour De Vito, parce que c'est un gars qui avait probablement beaucoup plus de chances de faire juste une année sur le practice squad des Giants, et puis après, ne plus jamais avoir une seule occasion en NFL. Et là, alors la NFL, ça dure jamais très longtemps pour beaucoup de joueurs, mais rien que le fait qu'il ait eu quelques victoires chez les Giants dans un contexte difficile, pendant peut-être 2-3 saisons, ça va lui permettre d'avoir des portes ouvertes dans d'autres équipes si jamais il reste pas chez les Giants. Alors, il est encore sous contrat chez nous l'année prochaine, mais ce que je veux dire, c'est que il a ça dans son bagage et ça va lui permettre de se faire une petite carrière professionnelle. Donc c'est plutôt cool. Après, deuxième niveau de ta question, est-ce que De Vito, ça peut être le futur ? Alors clairement pas pour remplacer Daniel Jones, parce que je pense que si Daniel Jones revient en pleine santé, tu vas pas avoir un joueur payé 40 millions sur ton banc. Ça n'a pas de sens. Mais peut-être...
Après, là, je t'arrête, je suis désolé, mais si... on s'en fout du salaire qu'il a. C'est, tu fais pas jouer un joueur pour son salaire, tu fais jouer un joueur pour ses performances. Alors, si il est pas au niveau et que De Vito l'est, moi je m'en fous qu'il soit payé 40 millions sur le banc.
Alors, non, moi je m'en fous pas. Je pense que si De Vito est meilleur que Daniel Jones, il faut trader Daniel Jones à tout prix. Tu peux pas...
D'accord, oui.
Voilà.
Mais tu vas pas dire je fais forcément jouer Daniel Jones parce qu'il est payé plus cher. C'est, ça, c'est pas ça la réflexion derrière ça.
Oui, mais en fait ça lui donne quand même un avantage. Enfin, je pense que aucun coach te dira, bah oui, bien sûr, on va mettre Daniel Jones sur le terrain parce que vous comprenez, il nous coûte cher. Non, d'abord, voilà. il va dire compétition, etc. Mais non, je pense que prochain training camp, il y aura De Vito, il y aura Daniel Jones, et si Daniel Jones est en pleine santé, bah à aucun moment, d'abord, va dire, il y a une compétition ouverte entre De Vito et Daniel Jones. Par contre, si pendant la saison, Daniel Jones fait de la merde et que ça va pas, en effet, il mettra De Vito sur le terrain. Là, je suis d'accord avec toi. Mais ça reste quand même... C'est ce qu'a dit Joe Shane, c'est l'équipe... Enfin, il a dit qu'il s'attend à ce que Daniel Jones soit le QB titulaire l'année prochaine. Après, on verra. Enfin, je veux dire, là, tout se passe bien. On est dans la période de lune de miel. On a affronté des équipes qui n'étaient pas bonnes. On a affronté une équipe qui a sous-performé contre nous. On verra contre les Saints la semaine prochaine. Mais au bout d'un moment, De Vito, il va se prendre une grosse branlée et tout ce rêve italien va disparaître.
Ça fait quand même 3 matchs. Combien de matchs il faut pour qu'on puisse se dire qu'il est vraiment pertinent et que c'est pas juste...
C'est voilà, pas un nombre de matchs.
Moyen. Bah, je sais pas, si le mec te fait 15 matchs où à chaque fois il a 100 de rating au moins, comme c'est le cas en ce moment, ça fait quand même 4 matchs d'affilée qu'il a plus de 100 de rating.
Mais en fait, tu vois, je te fais une comparaison. On parle beaucoup des Detroit Lions qui sont une équipe énorme cette saison, mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent, oui, mais les Detroit Lions, ils ont gagné que contre des équipes faibles.
Ah,
Et
mais ils étaient à 6-6, les Packers, hein, juste avant. C'est pas une équipe faible, les Packers.
oui, mais c'est une équipe qui a clairement, par contre, clairement sous-performé. Ce que je veux dire, c'est que DeVito bat les Eagles, ok. Là, je te dis d'accord, ok.
Ah ouais, ah bah là si on bat les Eagles, oui, là c'est clair. Mais je suis pas d'accord avec toi, ils ont pas sous-performé. C'est parce qu'on a su les faire sous-performer, c'est pas juste eux qui ont été moyens ou mauvais.
Y a deux choses, et puis on parlera de la défense
Bah
un
justement,
peu plus en détail.
ça va peut-être nous faire switcher sur la défense, effectivement. Ouais.
Le truc, c'est que y a des. Enfin, je veux dire, le muff punt, c'est une erreur des Packers.
Et attends,
Attends, les passes mal calibrées, il y a eu des passes mal calibrées, c'était pas forcément sous pression. Après, il y a eu des passes en end zone qui ont été défendues, notamment cette
Ouais.
superbe passe défendue par Carl Banks. Il y a eu aussi. Carl Banks, n'importe quoi. Dante Banks. Carl Banks, il revient sur le terrain à 60 balais. Wouhou! Et puis aussi Adoree Jackson. Enfin. Tu vois, en fait, je sors pas de ce match en me disant on a dominé les Packers. Oui, on les
Bah
a
moi aussi.
battus, mais on les a pas dominés.
Ok, mais c'est pas grave. Les battre de 2 points, ça me suffit contre une équipe qui était à 6-6 alors que nous on était à 4-8. Écoute, ça me va très bien. Tu parles du muff punt. Oui, ça nous offre un TD assez facile derrière. Je te rappelle que juste après, nous aussi. Alors c'est pas un muff punt, c'est un punt qui a été touché par. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est quand le punt est trop court, c'est possible qu'il rebondisse sur un de tes joueurs à toi, ce qui fait que là le ballon est libre et tout le monde peut le récupérer. C'est exactement ce qui s'est passé là. C'était déjà arrivé il y a 2 semaines et on avait par chance réussi à récupérer le cuir. Là, ça n'a pas été le cas. Il y a un joueur qui l'a touché, ils l'ont récupéré. Et sauf que cette fois-ci, eux n'ont pas réussi à marquer derrière. Donc c'est là aussi, ils ont eu une ex action exactement similaire. À la nôtre, sauf que eux ils ont mis juste un field goal et nous on a mis un TD. Donc tu vois, tu peux pas juste dire oui, il y a eu ça, oui, on a eu une interception, bah oui, mais c'est, je veux dire, c'est le jeu, c'est la défense qui fait ça, oui, ils ont fait un fumble et nous aussi on a fait un fumble, et sauf que nous on l'a provoqué et le fumble, alors que le fumble que nous on fait, bah c'est clairement Barclay qui se chie complètement dessus tout seul. Je sais pas, moi je le vois quand même comme une belle performance de cette équipe plus que ah bah c'est les Packers qui étaient pas dedans ou je sais pas quoi.
Oui, mais
C'est
du coup,
quand même, je trouve que c'est quand même fortement provoqué par notre part. Voilà, c'est ce
oui,
que je veux dire.
mais ça n'en fait pas une performance incroyable de DeVito. Alors, en fait, je me rends bien compte que
Non,
en
c'est
disant
parfait,
ça,
je
parce
suis
qu'en
d'accord.
fait, depuis le début, je suis celui qui dit non, mais DeVito, ok, c'est gentil, mais ça va pas le faire. Et puis en fait,
Oui,
chaque
c'est vrai que tu
semaine,
dis ça à chaque fois.
il me donne tort et je lui souhaite de continuer à
Il
me
va
donner
gagner le
tort.
Super Bowl cette année, tu vas nous dire, ouais, non, mais DeVito, bon, c'est quand même vite fait, tu vois.
Non, mais voilà, en
Ouais.
fait, à titre de comparaison, Dak Prescott, cette semaine, c'est 24 passes complétées pour 39 tentées, dans 271 yards de TD.
Ah mais
Voilà.
24 sur 39, ça fait quoi? Ça fait 55-60% et pour DeVito,
261...
il a plus de 80%.
271 yards.
Ah bon, il
Enfin,
touche le receveur
oui,
aussi. Non, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord.
271 yards, il tente des passes beaucoup plus difficiles alors qu'on a fait faire à
Non mais
DeVito des passes.
Attends, Prescott, il est un des meilleurs QB de la ligue cette année, il est très très bon. Tu compares un mec rookie undrafted avec un des meilleurs QB de la ligue en ce moment.
D'accord, ok, d'accord. Matthew Stafford, 23-41, 294, 3 TD.
23 sur 41, c'est 50%.
Oui, mais 294 yards, 3 TD. Lamar
D'accord.
Jackson, 24-43, 316, 3 TD,
Non
une
mais je suis
interception.
pourquoi tu me le compares au meilleur QB de la ligue? Là, je suis pas en
Mais
train de te dire ça, je suis en train.
parce que justement, ta question, c'était de te dire, est-ce que DeVito, c'est une option réaliste pour le futur? Moi, ma réponse, c'est oui, il nous a fait des trucs bien. Par contre, on va pas s'enflammer non plus. Il
Non,
n'a
je suis
fait que
d'accord. Et
158 yards.
là, je suis d'accord.
Il n'a fait que
Je suis d'accord avec toi.
158 yards et 21 passes tentées. C'est le minimum. En fait, c'est du game manager. Voilà. Et je l'ai dit, hein, son TD sur Hugins, il est absolument magnifique. J'ai trouvé ça super beau, mais d'autres passes, c'était des trucs quand même relativement simples.
Moi, je pense qu'il peut remercier beaucoup le coaching staff et les jeux qui sont appelés, la manière dont on joue autour de lui, parce que clairement,
Ah oui, tout
c'est
à
fait en
fait.
sorte de jouer sur ses forces, et là, ils sont assez bons sur ça.
Et
Ouais, je suis d'accord.
c'est tout à fait. Et c'est ce qu'a dit Brian Daboll. D'ailleurs, j'ai adoré ce qu'il a dit juste avant le dernier drive, quand il restait 1 minute 33. Il a dit, bah tiens, voilà des actions que t'aimes bien. And go read that son of a bitch. J'ai fait. Et en fait, c'était vraiment dire, on va aller, va leur niquer sa race. Bon, c'est très vulgaire, excusez-moi. Mais c'était un peu l'idée. Et comme il dit, c'est voilà, je t'ai donné des actions avec lesquelles tu es confortable. Et le coaching, c'est ça. Hein. C'est pas forcément dire à ton QB, faut que tu fasses ça et puis je m'en fous de ce que tu es capable de faire. C'est aussi le mettre dans une position où il va pouvoir réussir. Et Dabble a eu une situation ultra compliquée cette saison où il n'avait pas son QB titulaire, il n'avait même pas son QB2, et il se retrouve avec un undrafted rookie et il a remporté 3 matchs avec lui. Enfin, c'est juste oufissime. Mais voilà, c'est ouf.
Alors attends, là, juste Thiergo, je sais pas, tu es en train de basculer ton micro ou le, je sais pas ce que tu fais, mais
oui, c'est les aléas de l'enregistrement.
ok, est-ce qu'on parle un petit peu de cette défense, donc du coup qui a encaissé 22 points, mais qui a fait une interception, un fumble et un fumble special team, mais là c'est pas la défense, donc qui a encore provoqué des... C'est vraiment, à chaque fois on en parle toutes les semaines, mais c'est vraiment la grosse différence entre cette défense de début de saison et la défense depuis quelques semaines. C'est les turnovers provoqués, alors sans compter les, je sais plus, 6 ou 7 qu'on avait eu contre les... 6 je crois, contre les Commanders, mais bon ça c'est... on est habitué contre les Commanders. Cette défense qui a encore performé, je trouve, de manière intéressante. Deontay Banks qui a montré des très belles choses, des belles passes défendues, tu l'as dit tout à l'heure. Okereke, qui est toujours là au niveau qu'on l'attendait, voilà, qui continue avec McFadden à s'imposer au milieu de la défense. Et on a un Thibodeau qui a encore fait des belles actions, qui provoque le fumble, qui met le coup de poing au bon endroit pour provoquer le fumble, qui fait des super jeux contre la course, qui finit à 8 plaquages au total. Bon, 7 assists, mais 8 plaquages et un demi-sac de plus. Donc là, il doit être à 11,5 ou 12, si je dis pas de bêtises maintenant. Dexter Lawrence peut-être un peu moins en vue, mais donc il fait avec 0 plaquage seul et 3 plaquages en équipe, et je pense aussi que de toute façon les courses maintenant sont faites et orientées pour éviter au maximum de courir côté Dexter Lawrence. Ce serait un petit peu débile d'essayer de rentrer dans ce joueur là voilà, cette défense qui est complète et qui, je trouve qu'elle est à un niveau stable depuis plusieurs semaines, et clairement c'est pas elle qui nous fait perdre les matchs comme on a pu là. Je me souviens que des discours de podcast qu'on avait il y a 2-3 ans où à chaque fois c'était putain, la défense elle nous permet pas de faire quoi que ce soit parce qu'on encaisse 40 points à chaque fois quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette défense, toi, et voilà, la stabilité, c'est vraiment le mot qui me revient, c'est stabilité depuis plusieurs matchs.
Ouais, stabilité, on voit clairement la différence quand Dexter Lawrence est sur le terrain, puisqu'au final on ne concède que 123 yards à la course alors que nous on a accumulé 209. Que les attaques adverses l'évitent, c'est justement très bien. C'est parce que au moins on sait où est-ce qu'ils ne vont pas aller, et ça nous permet,
c'est clair.
Et ça nous permet de nous concentrer sur le reste. Pour moi, ça reste encore le meilleur joueur défensif de cette escouade, hein, et l'un des meilleurs joueurs. Enfin, il est dans le top 3 de cette équipe. Mais si on regarde plus globalement. Oui, ce qui ressort, c'est la capacité à provoquer des erreurs. Et ça, c'est pas forcément tout le temps traduit en turnover, mais à plusieurs reprises, on a vu des passes de Jordan Love qui étaient bien calibrées, qui allaient soit pour un gros play ou qui allaient soit dans l'end zone, qui parfois étaient même attrapées, et le ballon a été délogé par nos DB, et ça nous a sauvés plus d'une fois. Alors, il y a juste eu un doute sur, justement avant qu'ils marquent leur TD qui leur permet de passer devant,
je vois,
où en fait, le tight end chope le ballon, fait un pas en avant, et puis Jason Pinnock déloge le ballon. Alors, ça a été jugé comme étant une passe incomplète, mais en fait, je me suis demandé si quand même, dans l'end zone, rien que le fait d'avoir le contrôle du ballon et de mettre un pied à terre, ça n'était pas suffisant pour qualifier le TD. Bon, apparemment, ça n'était pas. Mais ouais,
on. Bon, au final, il marque sur le jeu d'après. Donc
ça, il marque sur le jeu d'après, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai trouvé qu'on avait aussi une escouade de DB qui était vachement présente sur cette rencontre.
Cordell Flott, Jason Pinnock, Deontay Banks, Adoree Jackson, c'est vrai que ça tient plutôt bien à la baraque. C'est vrai que les DB sont assez intéressants en ce moment et font des bonnes choses. Il y a encore eu 2-3 plaquages, comme je parle à chaque fois, et il y a flagrant de McKinney qui arrive et qui veut mettre un coup d'épaule. Au final, il rebondit sur le coureur qui gagne 5 yards de plus parce qu'il ne le plaque pas proprement. Bon, ça, voilà, à chaque fois, j'en parle de ce truc-là. Ça m'énerve un petit peu. Les joueurs continuent à le faire et je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Ouais, je sais pas trop quoi dire de plus sur cette défense. Moi, je suis toujours impressionné par Thibodeau à chaque match. Je trouve que il est constant, il fait des bonnes actions, il met pas que la pression sur la passe, mais il sait aussi défendre la course, la contain, il dévie des passes, il provoque des fumbles, enfin, il est impactant, et c'est exactement ce qu'on demande à un joueur de sa trempe, donc je suis de plus en plus conquis par ce Thibodeau.
Ouais, il est à 11,5 sacs, hein, tu me demandais tout à l'heure où est-ce qu'il en était, ouais. Il est 9e de la ligue. Sa deuxième partie de saison est clairement monumentale. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est dans les votes du Pro Bowl. Je n'ai pas l'impression qu'il soit dans le top. On entend surtout parler de Dexter Lawrence, mais il nous fait une super saison et on espère que ça continue comme ça.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux dire de cette défense? Attends, je reprends mes notes. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose?
Écoute, si on a vu Azeez Ojulari qui a eu un demi-sac, ça vaut.
Ouais, on l'a un peu plus vu. En même temps, c'était pas dur de le voir moins que ce qu'on avait vu les semaines d'avant, mais il a été un peu plus en vue, tout à fait.
Voilà, il a été un peu plus en vue, et puis. Mais sinon, à part ça, je pense qu'on a fait le tour de la question.
Okay. Hein,
tu m'en parlais avant le podcast, ça, enfin, on revient un peu vers l'attaque, mais j'ai la stat sous les yeux maintenant. De quand était la dernière fois qu'on avait fait un énorme comeback comme ça, la dernière fois c'était contre les Cardinals en septembre.
Donc, ah bah oui, je suis con.
Voilà. Mais sinon il y avait aussi eu.
Non, c'était pas ça ma question. C'était pas quand est-ce qu'on a fait un comeback, c'est un winning drive sur le dernier drive du match. C'était ça que je voulais évoquer. Parce que là, oui, il y a eu un comeback sur toute une mi-temps, mais à quel moment on a fait un drive de la dernière seconde, comme ça, avec moins de 2 minutes à jouer pour aller marquer les points qu'il nous faut? Ça, je sais pas, il faudrait les regarder. J'ai l'impression que c'est pas notre fort.
Si, contre les Cardinals. Si, contre les Cardinals.
Les Cardinals, on a commencé à remonter toute la deuxième mi-temps. C'est pas vraiment ça que j'évoque. Moi, j'évoque plus un match serré où il faut qu'on aille mettre le dernier TD sur le dernier drive, et ça... C'est pas un truc qu'on sait faire, comme je disais tout à l'heure. Bon, bref, peut-être qu'il y a eu un dernier drive dans le dernier truc, mais c'est une mi-temps entière où on a dû remonter. C'est pas juste sur un drive de fin.
Putain, je suis en train de te regarder le truc des Cardinals, mais c'était pourtant ce qui s'était passé. Hein. C'est parce qu'on avait 28 points à remonter contre eux.
Oui, mais moi, c'est... Bon, bref.
Non,
je parle, c'est juste un drive de fin de match où il reste moins de 2 minutes à jouer, où tu vas gagner le match sur exactement comme c'était le cas là.
Oui, d'accord, je comprends. Avec Bullock comme kicker, ça non, ça n'est jamais arrivé.
Avec Bullock comme kicker, oui, ça c'est sûr. La semaine prochaine, tu voulais redire autre chose sur ce match-là ou on peut
rapidement
des Saints.
Je pense que c'est bon pour ce match-là.
Donc la semaine prochaine on rencontre les Saints qui viennent de battre les Panthers, youhou, bravo les Saints, 28-6. Derek Carr, tu vois, Derek Carr contre les Saints, il fait 18-26, 119 yards, 2 TD d'interception. Bon, les Panthers c'est quand même très difficile pour eux en ce moment. Bryce Young il finit le match avec 137 yards, donc plus que Derek Carr, et il a 13-36. Bryce Young, je crois, le QB rookie numéro 1 de la draft l'année dernière, à la mi-temps je crois qu'il était à 2 passes complétées sur 12 lancés, un truc comme ça. Enfin, c'était cataclysmique. Bref, c'est très compliqué côté Panthers, mais c'est pas les Panthers qui nous intéressent, c'est bien les Saints. Alors, les Saints, ils sont à quoi ils sont à 6 victoires, 7 défaites, exactement comme les Packers, tiens. Comme les Packers qui sont aussi à 6 victoires, 7 défaites en ce moment. Est-ce que t'as un peu des stats sous les yeux des Saints ou pas du tout?
Ouais,
comment ils se situent par rapport?
C'est milieu du tableau, en attaque, à la passe, ils sont 14e en yard, 20e en TD. À la course, ils sont 20e en yard, 14e en TD. Et puis en défense, ils ont plutôt une bonne défense contre la passe, hein, puisqu'ils sont 7e en yard, concédé la passe pour 12e en TD. Par contre, à la course, encore une fois, c'est pas glorieux, 26e en yard et 25e en tentative. Donc c'est clairement un match auquel il va falloir privilégier la course. On va peut-être se retrouver avec une physionomie un peu similaire à celle du match contre les Packers.
Ouais, tout à fait. Je suis en train de regarder les stats de Derek Carr qui fait une saison Ouais, correct. Il a un rating de 90, 13 TD, 7 interceptions.
Il a
Bon,
loupé
voilà,
quelques
c'est pas.
matchs. Oui, enfin, Derek Carr, c'est pas.
Ah bon, il a 13 matchs. Il a joué 13 matchs. Il en a starté 13. Il y a eu
Aïe!
combien de matchs en tout dans la saison?
14. Mais bon, c'est la bye week.
Ah ouais, non, bah je crois qu'il a tout
Ah
joué.
oui, il me semblait qu'il avait été blessé à un moment. Non,
Ben moi
enfin.
aussi, j'avais ça en tête, c'est bizarre, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas un match où peut-être il a fait que la moitié du match, il s'est blessé au milieu, je sais pas.
Ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Mais ouais. Oui, donc là, encore une fois, on est a priori sur un match qui est à notre portée. Parce que après, une fois qu'on a passé ce match-là, après sont les Eagles, les Rams et encore
Ouais.
les Eagles.
Alors les Rams, ils font des beaux matchs en ce moment, surtout en attaque. Les Eagles, ouais, bah. Alors les Eagles, ils sont quand même sur deux défaites consécutives. Bon, après, c'est contre les 49ers et contre les Cowboys. Ils ont une série de matchs qui n'était pas évidente. Les Cowboys, très impressionnants quand même, hein, qui ont vraiment éclaté les Eagles. Ils leur ont fait très mal. Les Eagles qui ont fait beaucoup de pertes de balles. Je crois que leurs deux receveurs phares ont fait deux fumbles. Ouais, ça va être l'occasion pour moi d'aller réécouter un peu leur podcast là. Ça y est, maintenant qu'ils perdent, je vais pouvoir un peu réécouter ce qu'ils racontent. Parce que
Ouais.
quand ils gagnent, ça m'intéresse pas.
Non, c'est sûr. C'est
Mais
sûr.
oui, ça va être compliqué. Alors, j'avais fait un petit sondage. Vous aviez indiqué qu'avant ce match contre les Packers, les Giants finiraient à 5 victoires. Donc, on y est déjà. Donc, a priori, on devrait plus gagner un seul match si vous avez raison. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est un match qui a l'air accessible. C'est bien les Saints. Je dis bien accessible parce qu'ils ne sont pas non plus gratos. Hein, ça joue quand même. Le reste va être difficile. Mais bon, écoute, on est sur une bonne lancée. Essayons de continuer là-dessus. Et puis, on sait jamais ce qui peut nous attendre. On n'espérait pas gagner contre les Packers. Et écoute, on l'a fait, donc
Alors
c'est
attends,
très bien.
juste avant que on conclue ce podcast, je voulais faire un petit
Ouais.
bilan
Ouais.
playoff.
Ah ouais, tiens, très intéressant, vas-y.
Petit bilan playoff, parce que bien entendu, bon, la division, c'est pas pour nous. Mais
Ah ça, oui.
comment est-ce qu'on peut voir? Bon, pour le moment, on n'est pas du tout dans les 7 équipes qui peuvent se qualifier. Hein. Ce sont toujours.
Toi, tu sais, moi j'ai vu un truc, c'est que c'est possible qu'on soit wild card si on gagne la semaine prochaine. Ça dépend évidemment des résultats des autres équipes, mais c'est jouable que dès la semaine prochaine, on soit dans les équipes qualifiables.
Bah, en fait, pour te donner un peu une idée de comment on se situe, donc y a, donc pour rappel, hein, il y a 7 places disponibles en playoff par conférence. La 7e place en ce moment est trustée par les Packers. La 6e, c'est aux Vikings qui ont remporté un match 3-0 contre les Raiders. Donc.
Oh, quel enfer! Il y a plein de matchs avec des scores pourris en ce moment, hein, des 6-3, des 3-0, c'est un enfer la NFL cette année.
Attends, mais tu sais ce qui est le plus fou? C'est que la dernière fois qu'un 3-0 est arrivé en NFL, c'était en 2007.
Et c'était nous, c'est ça?
Non, non,
Non? Ah, je
c'était.
croyais que t'allais dire un truc comme ça.
Non, non, c'était pas nous. Non, la dernière fois qu'il y a eu un match 0-0, c'est ce que j'ai posté en réponse à quelqu'un. C'était les Giants, mais c'était les Giants contre les Lions, mais en 1943. Mais ça, c'est
Ah oui,
parce que.
depuis 1943, il n'y a pas eu de 0-0. Ah, puis il y a les prolongations.
Mais oui, mais c'est parce que c'est. Oui, mais enfin, les prolongations, tu peux quand même terminer à 0-0. Mais c'est surtout qu'en 1943, tous les mecs qui étaient un peu costauds, bah, ils étaient en train de se battre en Europe
Ouais,
ou
ah
dans le
oui,
Pacifique.
d'accord. 43, oui, effectivement. Ouais.
Mais ouais, tout ça pour revenir en playoff. Donc, les Packers ont la 7e place avec 6 victoires pour 7 défaites. Et puis, en fait, derrière eux, il y a 4 équipes avec le même bilan. Rams, Seattle, Atlanta, New Orleans. Et ensuite, il y a les Giants à 5 victoires pour 8 défaites. Donc, en fait,
C'est-à-dire le même bilan, c'est combien? Ils ont quoi comme bilan?
6 victoires, 7 défaites. Ils ont le même bilan que les Packers.
Ah!
Ils ont
Ah
le même.
oui, d'accord.
Donc, en fait, il y a 5 équipes qui sont à 6 victoires pour 7 défaites. Mais aujourd'hui, avec le tiebreaker, et j'ai pas en tête les règles du tiebreaker, ce sont les Packers qui se qualifieraient en playoff. Donc, on a encore du chemin avant de pouvoir. Rêver de phase éliminatoire, même si de toi à moi, en fait, j'en rêve pas forcément parce qu'on va se faire éclater en playoff. Et pour la draft, c'est pas génial. Ça fera toujours plaisir, mais.
Ouais, mais là pour la draft, c'est trop tard pour y penser maintenant. Avec 5 victoires, ça commence à être trop compliqué pour obtenir une belle place. Même si il y a des équipes comme les Bears, je crois, qui ont gagné, ou voilà. En fait, du coup, 6-7, nous on est à 5-8. Ça veut dire que si on gagne, on passe à 6-8. Et les équipes qui sont à 6-7, si elles perdent, sont à 6-8 aussi. Donc c'est bien ça, on peut être dans le même bilan que toutes ces équipes-là, suivant les résultats qu'ils font, et se retrouver potentiellement qualifiés temporairement.
Pour mais après, ce qui rentre... ce qui rentre en ligne de compte, c'est quel est ton bilan au sein de ta division, quelle est
la. C'est pas la difficulté du calendrier. Ouais,
si,
c'est ça, ouais.
Si, il y a tellement de règles, je les connais pas. Mais si, franchement, si on arrive à ce stade-là dans les dernières semaines où on est en mode ouais, bon, alors il faudrait que Roger perde tandis que machin fait nul et que la Lune soit alignée avec Mars. Oui, on en viendra à ça. Mais je pense pas que. Je pense qu'on va. Enfin, ça m'étonnerait pas qu'après le match des Eagles, le match aller, on soit complètement éliminé.
Alors sache que la Lune est forcément alignée avec Mars, parce qu'entre deux points, il n'y a qu'une seule droite, donc c'est toujours aligné la Lune et Mars.
D'accord, enfin, merci.
Quoi qu'il en soit. non, bah écoute, c'est... franchement, on arrive à un stade de la saison où c'est ça qu'il faut espérer. Maintenant, on ne va pas espérer... J'avoue qu'à un moment, je disais, bon, bah de toute façon, allez, au point où on en est, si on perd, de toute façon, ça ne change plus grand-chose. Au moins, on aura une bonne place à la draft. Là, maintenant, c'est trop tard. Tant qu'à faire, autant gagner des matchs. Bon, on verra bien ce qui va se passer contre les Saints et on fera évidemment le point la semaine prochaine. Mais si on gagne contre les Saints, écoute, tout est permis. C'est pas toi qui as écrit un article déjà en disant sur le blog, en disant que les playoffs sont encore accessibles ?
Ouais.
Bon, alors, qu'est-ce que tu me sors là maintenant ?
Non, mais c'est parce, que, c'est parce que nous sommes créateurs de contenu et donc ça implique de créer du contenu. De faire
putain,
des
putaclic, voilà.
De faire des trucs putaclic.
Bravo, je comprends ta vision. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Thiergo d'avoir pris le temps de faire ce nouveau podcast. 2 victoires, 3 victoires d'affilée. Écoute, c'était absolument inespéré. On vous dit à la semaine prochaine pour débrief de ce match contre les Saints. Bonne semaine à tous. Salut.
Bisous.